Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
How would I describe myself?
Genius billionaire playboy from it.
Des memes, des gifs, du buzz, Elon Musk est une star des médias et des réseaux sociaux. Il fait l'objet d'une multitude de montages sons, images et vidéos qui le glorifient ou bien le moquent. Un média à lui tout seul. D'ailleurs, il vient de s'en acheter un pour 44 milliards de dollars. Twitter. Mais là, on va tenter de fendre la carapace d'Iron Man, comme l'appellent ses fans, pour aller voir quelle personne et quel capitaine d'industrie est exactement Elon Musk. Je suis Michel Varnet, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos. Et je vous propose un portrait à deux faces du patron de Tesla, avec les coups de génie de l'industriel et les coups de sang controversés du bonhomme. Pas facile de se faire une idée tranchée d'Elon Musk. Il a tendance à susciter des sentiments diamétralement opposés, parfois chez les mêmes personnes et parfois dans la même journée. Alors explorons les deux faces du personnage comme celle d'une médaille où chacune serait le revers de l'autre. Et pour commencer, Elon Musk, c'est quel genre d'entrepreneur ?
C'est quelqu'un d'assez déroutant, étonnant et qui aime vraiment mettre à bas les conventions et casser un petit peu ce que les habitudes et les héritages des grandes industries comme il l'a fait dans l'automobile ou l'industrie spatiale par exemple.
Julien Dupont-Calbo est chef du service industrie. Aux Échos.
C'est quelqu'un qui est assez spécial parce qu'il a effectivement une espèce de relation humaine qui est assez particulière. Quand on voit à l'image et dans des vidéos, c'est assez étrange la manière de, sa manière de parler et d'évoluer même dans l'espace. C'est aussi quelqu'un qui n'a pas hésité à prendre énormément de risques tout au long de sa carrière parce qu'en fait, il a monté une start-up au moment de la bulle Internet là, au tournant des années 2000 en Californie et ça a marché. Il a réinvesti aussitôt les quelques millions qu'il avait gagnés la première fois dans une autre entreprise, une autre start-up qui est devenue PayPal par la suite, donc là ça a encore mieux marché et il a récupéré plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de millions de dollars à ce moment-là et plutôt que de profiter de la vie et d'acheter des belles voitures et un yacht, il a préféré réinvestir tout son argent, donc c'était SpaceX et Tesla.
De qui peut-on le rapprocher comme industriel ? A-t-il un modèle ? A-t-il un père spirituel ?
Le personnage est assez complexe, donc c'est difficile vraiment de le comparer à quelqu'un en particulier. Par contre, on peut le comparer à une série de personnages assez importants dans l'histoire de l'économie américaine. Le premier, c'est tout simplement Rockefeller, parce que Elon Musk aujourd'hui est l'homme le plus riche du monde et sa richesse atteint quasiment, avoisine celle de Rockefeller il y a plus d'un siècle. Le deuxième, c'est Henry Ford, par exemple, parce qu'il a vraiment révolutionné l'automobile depuis 10-15 ans avec Tesla, comme Ford l'avait fait il y a un siècle aussi. Et il n'hésite pas, lui aussi, à prendre des risques et à inventer des nouvelles manières de fabriquer les voitures, comme Ford à l'époque avec la production en série de la Ford T. Et puis, il a un petit côté aussi Steve Jobs, l'ancien patron d'Apple, pour le côté gourou, marketing, communication, mais avec un côté un peu plus fou, parce que Elon Musk, c'est quand même quelqu'un qui a envoyé une décapotable rouge dans l'espace avec un mannequin déguisé en cosmonaute avec David Bowie dans l'autoradio. C'est quelqu'un qui a présenté une voiture très importante pour Tesla il y a quelques années, comme le prototype n'était pas encore prêt, la voiture tenait avec des aimants, la tôle tenait avec des aimants. Donc c'est quelqu'un qui est capable de prendre des risques comme ça, ou même d'inventer tout simplement le principe même de faire des fusées réutilisables. Enfin, c'est des choses qui n'existaient pas vraiment. Et ce côté complètement fou est même dans la communication, parce que quand on voit SpaceX, quand on voit ces fusées, la manière dont elles sont, le design de ces fusées, les costumes des cosmonautes américains qui montent dans les engins de SpaceX, c'est très travaillé, c'est vraiment digne d'Hollywood. c'est un peu un côté Walt Disney ou un côté Barnum, donc le roi des spectacles, qui est assez frappant. Donc c'est vraiment tout un patchwork de personnages assez différents, mais et qui donne un peu un résultat totalement hallucinant qui est Elon Musk.
Ah oui, il est un peu une galaxie de personnages américains à lui tout seul. On lui prête même le surnom d'Iron Man, paraît-il. Vous savez pourquoi ?
Je sais pas pourquoi, je crois que c'est ses fans qui étaient tout simplement fans de science-fiction, et c'est le côté Marvel, etc. Et comme c'est un super-héros de l'automobile et de l'industrie spatiale et de l'aventure spatiale, je pense que tout simplement ils l'ont surnommé Iron Man, parce qu'il est assez costaud aussi, il est baraqué, il a les épaules assez larges.
Mais derrière la carrure, derrière ses épaules larges, qui était le petit Elon Musk et quel a été son parcours ?
Il a un parcours assez particulier, parce que donc il est né en Afrique du Sud. Je crois que sa maman était mannequin, si je me rappelle bien, et son papa faisait des affaires. Ses parents ont divorcé quand il était jeune, et d'après les biographies, son père était très dur, vraiment très particulier, donc il peut avoir éventuellement quelques fêlures venant de cette enfance-là, et à tel point qu'il a d'ailleurs pris son petit baluchon à 17 ou 18 ans pour partir à l'autre bout du monde, au Canada, rejoindre la famille éloignée, donc il a pris ce risque-là, qui était quand même, pour un jeune homme, il fallait oser. Donc il a atterri au Canada, il a essayé de retrouver ses oncles, ses tantes, ses cousins, il a vivoté pendant quelques temps. Puis, comme il était quand même doué en informatique, dans toutes les matières scientifiques, il a fini par faire des études au Canada d'abord. Puis après, il est arrivé en Californie, à Stanford. Et c'est là qu'il a monté sa start-up et après l'aventure a commencé.
Ah oui, c'est un pur produit du rêve américain.
Ah, je pense que c'est un peu... Oui, il a démarré avec son premier sense. Et, c'est un peu un petit côté Picsou aussi, de ce point de vue-là.
Y a-t-il une part de légende là-dedans ? Ou bien y a-t-il une part aussi d'inconscience totale ? Parce que l'ascension paraît un peu folle, non ?
C'est un nouvel épisode de la légende du self-made man américain. De toute façon, c'est vraiment l'homme parti de rien qui devient ultra riche et milliardaire grâce au bienfait du capitalisme américain. C'est comme ça que les États-Unis conçoivent la chose. On peut en penser ce qu'on veut, mais c'est sûr que le parcours est tout bonnement hallucinant parce qu'effectivement, il est vraiment parti de rien. Personne ne l'a vraiment aidé non plus. Et il a pris tous les risques pendant 20 ans jusqu'à devenir l'homme le plus riche du monde grâce à ses réussites, parce qu'effectivement, c'est tout sauf un héritier, Elon Musk.
On a l'impression qu'il ne connaît pas d'échec industriel. Est-ce que c'est le cas ?
Il a fait fortune avec ses startups. En tout cas, c'est ce qui lui a mis le pied à l'étrier en gagnant les premiers millions. Sa première start-up, c'était en gros, il avait récupéré des cartes 3D et il appelait les restaurateurs de Californie pour que les restaurateurs indiquent le lieu de leur restaurant sur sa carte, sur Internet. C'était vraiment le début d'Internet, c'était avant Google Maps. Hein. Le concept était un peu compliqué, mais il a fini par trouver un acheteur qui lui a permis de sauver la face. Et après, il s'est lancé dans les services financiers, dans la banque en ligne. Et là, au final, il était en concurrence frontale avec PayPal, donc ils ont fini par s'allier. Mais il s'est fait sortir par le management et par les actionnaires. Et au final, c'était le premier actionnaire. Il a fait fortune grâce à PayPal, mais il a perdu le contrôle, parce que PayPal, c'est Peter Thiel qui a vraiment développé cette entreprise-là jusqu'au rachat par eBay. Après, SpaceX, c'est pas la partie que je connais le mieux, mais il y a eu des échecs, il y a eu dans les tests, il y a des choses qui n'ont pas marché, donc ça reste toujours compliqué, ça reste un défi de toute façon, l'aventure spatiale. Dans l'automobile, ça a été long à se préciser, puisque l'envolée Tesla, ça date d'il y a 2-3 ans à peine, donc il y a eu 10 bonnes années où là, il fallait vraiment travailler, prendre des risques, faire des paris totalement inconscients, mais qui ont fini par payer. Et puis après, il y a l'aspect personnel. Je crois qu'il a eu plusieurs divorces, etc. Donc ça, c'est autre chose.
Dans l'industrie, quels sont ses coûts et ses paris ? Et qu'ont-ils éventuellement de totalement disruptifs ou de révolutionnaires ?
Dans l'automobile, par exemple, Tesla, c'est le premier constructeur automobile d'envergure mondiale qui émerge depuis une bonne cinquantaine d'années. Je crois que le dernier, c'était Hyundai en Corée, qui était soutenu par l'État coréen. Et c'est quand même lui qui a su rendre sexy la voiture électrique et en faire une fabrication à très grande échelle, une fabrication très compétitive en termes de coûts, parce qu'aujourd'hui, la marge de Tesla est insolente par rapport à ses concurrents qui vendent des voitures diesel ou essence, ou hybrides. Voilà pour la partie automobile. Après, il a essayé de faire des choses dans les panneaux solaires, où là, ça marche un petit peu moins bien, effectivement. C'est peut-être encore un demi-échec. Il a lancé des choses complètement folles là, dans les tunnels pour essayer de faire des espèces de tunnels dans les grandes villes, dans les grandes mégalopoles pour éviter les bouchons. Il s'est amusé avec une marque de tequila, à faire des lance-flammes. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre là ? Il a un projet complètement fou d'implant cérébral, par exemple. Il travaille sur l'intelligence artificielle avec des robots aussi. Donc effectivement, et puis il brasse assez large. Et puis donc Twitter, c'est la cerise sur le gâteau, c'est son dernier coup. Et là, c'est plutôt son aspect communication iconoclaste est complètement folle, puisque Twitter, il aime ça, il adore ça. D'ailleurs, la SEC, le gendarme américain de la bourse, lui a tapé sur les doigts plusieurs fois, parce qu'il fait des blagues sur Twitter, il se moque des gens. Encore ce matin, il disait que son prochain coup après Twitter, il pourrait éventuellement racheter Coca-Cola pour en mettre de la cocaïne dedans.
For instance, he's joking, literally joking on Twitter about buying Coca-Cola next and adding cocaine back into the recipe. He's even sniping at Donald Trump's own social media platform. He's having a lot of Musk fun.
Alors, comme dit ce commentateur d'India Today, pour le moment, Elon Musk fait des blagues sur Twitter. Il appelle même ça de l'humour Musk. Julien, ce sont ces méthodes qui font son succès ?
Après, c'est toujours compliqué de faire la part des choses, en fait, sur ces grandes aventures industrielles, entre la part entre le dirigeant, ses équipes, le moment, la technologie. Il ne fait pas de Tesla tout seul, de toute façon, parce que derrière lui, il y a des centaines et des milliers d'ingénieurs qui sont tous plus compétents les uns que les autres. Et donc, à un moment, il y a l'aspect vision, où je veux emmener mes équipes, quel genre de produit je veux faire, mais après, il y a l'exécution derrière. Et donc, après, c'est du management. Et donc, manifestement, même s'il fatigue assez rapidement ses équipes, parce qu'il y a différents cycles, il y a des recyclages dans ses directions, manifestement, il a su attirer des talents de forte compétence et les faire travailler dans le même sens pour sortir ce qu'il a réussi à faire, que ce soit dans les fusées ou dans l'automobile.
Est-ce que tout ça, ça bouscule ses pairs dans l'industrie ? Est-ce qu'on observe le modèle Elon Musk pour comprendre comment faire ou bien comment se comporter au 21e siècle quand on est capitaine d'industrie ?
C'est sûr que dans l'industrie automobile, qui était dominée dans les 15 dernières années par les Allemands, c'est sûr que les dirigeants de Volkswagen ou de BMW ou de Mercedes, c'est des personnages assez austères, voire très austères. Ça change un petit peu maintenant parce que justement, Musk les aiguillonne. Et donc lui est arrivé avec sans convention, en parlant en franc, en les défiant. Et effectivement, ils ont réagi fortement au début, parce qu'ils le prenaient vraiment comme le petit trublion de l'auto, il va jamais réussir, de toute façon, bon d'accord, il fait des voitures électriques, mais les gens veulent pas de voitures électriques, et en plus, c'est très compliqué à fabriquer, et lui, nous, ça fait 100 ans qu'on travaille avec des dizaines de milliers d'ingénieurs pour affiner le produit qui est l'automobile, lui, il arrive comme ça, il va jamais y arriver. Et bien, force est de constater que quelques années plus tard, il y est. Et donc maintenant, justement, toute l'industrie automobile et tous les dirigeants de l'automobile se demandent ce qu'ils ont raté et essayent justement d'observer le parcours et la trajectoire de Tesla pour comprendre ce qu'ils pourraient récupérer chez eux. Et il a un petit côté, on parlait de à qui il pourrait ressembler, il a un petit côté Edison de ce point de vue-là, Thomas Edison, donc c'est un Américain, c'est au 19e, hein. C'est pas forcément lui qui a inventé l'électricité, mais par contre il l'a démocratisé, il a réussi à en faire un business qui est devenu General Electric, donc un mastodonte encore un siècle plus tard. Et d'ailleurs, Elon Musk, dans une interview il y a quelques années dans la presse américaine, racontait qu'il se sentait plus proche d'Edison que de Tesla, qui travaillait chez Edison à l'époque, mais qui invente Tesla, c'est l'inventeur du courant alternatif, et c'est la personne qui a donné son nom à son constructeur automobile, puisque donc Elon Musk est le patron de Tesla, et il préférait Edison, parce qu'Edison a réussi à mettre en pratique et à monter des activités, à créer des entreprises à partir de la technologie, tandis que Tesla n'a jamais réussi à le faire. D'ailleurs, il est mort en étant pauvre, alors qu'il avait effectivement fait des découvertes majeures.
En d'autres termes, il ne suffit pas d'inventer. Il faut savoir diffuser. Lui, il sait, apparemment. Cet Elon, quel génie tout de même. Son QI atteindrait 155, dit-on, frôlant celui d'Einstein à 160. Mais le génie, c'est comme les inventions. Tout dépend de ce que l'on en fait, surtout dans la communauté humaine. C'est ce qu'on va maintenant essayer de mieux comprendre chez lui. J'ai appelé pour cela Hortense Goulard. Elle est la correspondante des Échos en Californie. Et je lui ai demandé si, vu de la Silicon Valley, Elon Musk était un ovni, un doudingue ou bien un modèle absolu.
Alors, un peu comme un mélange de tout ça, il est très admiré pour ses qualités d'entrepreneur, de leader et de visionnaire, même s'il promet parfois des choses qui n'arrivent pas vraiment au moment prévu. Et surtout, dans la Silicon Valley, il suscite l'admiration pour sa capacité à faire bouger les lignes, à accomplir des choses qui paraissaient impossibles au départ. Donc le simple nom d'Elon Musk suffit parfois à convaincre les gens que l'entreprise a un potentiel exceptionnel. D'un autre côté, donc, c'est un personnage très controversé, qui choque avec ses prises de position parfois extrêmes, avec des blagues sexistes, avec une culture d'entreprise chez Tesla qui est réputée pour être peu inclusive. Et de tels discours peuvent choquer dans la Silicon Valley, où la plupart des gens votent démocrate et sont assez sensibles aux questions de discrimination. Et leurs craintes ou leurs doutes vis-à-vis d'Elon Musk sont justifiés puisque Tesla a déjà été condamné pour le traitement raciste de l'un de ses employés.
Du coup, est-ce qu'on en est à choisir son camp dans la Silicon Valley par rapport à lui? Et est-ce qu'il est à parts égales, admirable ou agaçant?
Je pense qu'on peut dire qu'il est à la fois admiré et qu'on le trouve agaçant un peu à mesure égale. J'ajouterais qu'il est envié et émulé parce qu'il correspond bien en fait à ce mythe de l'entrepreneur de génie qui va changer le monde, qui est l'une des idées phares de la Silicon Valley. Donc, en fait, il y a beaucoup de gens qui, en fait, lui pardonnent ses écarts de langage ou ses comportements qui sont parfois abusifs. Par exemple, une preuve de ça, c'est que Tesla n'a pas de mal à recruter, alors que c'est une entreprise qui est réputée pour avoir des horaires plus durs que dans d'autres entreprises, donc où on travaille beaucoup et où les salariés ne sont pas rémunérés en action. Donc, le salaire n'est pas tout à fait à la hauteur, parfois, des horaires de travail. Et malgré ça, Tesla n'a aucun problème à recruter parce qu'il y a justement ce mythe qui fait que les gens veulent travailler avec lui, en fait. Et il faudra ajouter que Elon Musk lui-même, en fait, a choisi de quitter la Californie pour le Texas parce que, sans doute, les conditions ici ne lui convenaient pas. Alors, on peut citer un régime fiscal plus favorable au Texas, mais je pense que la goutte d'eau pour Elon Musk a sans doute été la pandémie de coronavirus, parce qu'il était violemment opposé à toute mesure de confinement. Et la Californie est l'un des États qui a mis en place les mesures les plus strictes et qui ont été très bien respectées ici. Et donc, pour ça, il était totalement en contradiction avec le reste de la Silicon Valley.
En termes de relations avec les médias et de communication, c'est quoi la méthode Elon Musk ?
Elon Musk a fait un choix intéressant qui a été de renvoyer toute son équipe de communication aux États-Unis, qui ont été réparties dans d'autres équipes chez Tesla. Et donc, pour un journaliste, ça veut dire qu'il n'y a personne à appeler chez Tesla à qui poser des questions, personne pour organiser des conférences de presse. Et donc, c'est Elon Musk qui se charge lui-même de faire les annonces sur Twitter, en général. Et il est réputé pour ses relations conflictuelles avec la presse. Donc, par exemple, quand il a ouvert son usine au Texas le mois dernier, la presse n'était pas invitée. Il attaque régulièrement des journalistes sur Twitter dont il apprécie pas le travail parce qu'ils se sont montrés critiques vis-à-vis de Tesla ou de lui-même. Et pour autant, il y a peu de personnes ou d'entreprises aux États-Unis qui suscitent une telle attention des médias. Et c'est sans doute aussi pour ça qu'Elon Musk a voulu racheter Twitter, parce que ça lui permet de s'assurer qu'il conserve un mégaphone qui lui permet de faire ses annonces et de créer la polémique. Et pour lui, en fait, attirer l'attention sur lui, ça peut être une façon aussi de s'assurer une publicité gratuite, parce que Tesla ne dépense rien en publicité, au contraire de tous les autres constructeurs. Mais on parle tellement de son chef que c'est peut-être pas la peine.
Est-ce qu'il est un phénomène à lui tout seul? Et que dire de ses phrases ou de ses prises de position?
Elon Musk aime bien provoquer, il aime susciter la controverse, il aime faire parler de lui. Et donc, il a été largement servi ces derniers jours. Mais c'était déjà le cas ces dernières années, donc y compris pour des comportements qu'on n'attend pas forcément d'un PDG. Donc, par exemple, sur Twitter, il s'était bagarré publiquement avec un spéléologue britannique qui avait participé à une mission très dangereuse en Thaïlande pour aller sauver des enfants qui étaient coincés dans une caverne. Et en fait, ce spéléologue avait critiqué Elon Musk en disant que l'aide qu'il proposait d'apporter, qui était des petits sous-marins pour aller dans la caverne, n'était pas appropriée et que c'était un coup de com'. Et Elon Musk l'avait très très mal pris et il l'avait traité de pédophile sur Twitter. Et il avait même payé un enquêteur pour qu'il mène l'enquête sur ce spéléologue et qu'il essaye de trouver des choses qui puissent nuire à sa réputation. Il avait aussi écrit sur Twitter qu'il avait réuni les financements pour privatiser Tesla, ce qui lui a été reproché par le régulateur américain des marchés parce que c'était pas vrai. Mais il aime bien aussi provoquer en faisant des blagues parfois à connotation sexiste. Donc récemment, il avait écrit sur Twitter qu'il allait créer une université qui s'appellerait le Texas Institute of Technology and Science, ce qui s'abrève par TITS, donc qui veut dire nichon en anglais. Ou voilà, ou bien au début de la guerre en Ukraine, il a dit qu'il défiait Vladimir Poutine en duel sur Twitter. Voilà, donc la liste de ses provocations est assez infinie et c'est clairement pas le comportement de n'importe quel PDG de la tech.
Cela lui a-t-il valu de se faire des ennemis dans le petit monde des patrons de la Silicon Valley ?
Oui, même si Elon Musk peut parfois faire rire ou provoquer plutôt dans le bon sens du terme, il peut lui arriver aussi d'être assez cruel. Donc récemment, il y a eu un échange de SMS avec Bill Gates qui a fuité sur Twitter, dans laquelle Elon Musk demande à Bill Gates s'il a parié un demi-milliard de dollars sur la baisse du cours de Tesla. Bill Gates lui répond que oui, mais qu'il ne veut pas parler de ça et qu'il veut parler de philanthropie. Et Elon Musk lui répond qu'il ne veut pas parler de philanthropie avec quelqu'un qui parie contre l'entreprise qui fait le plus pour aider à lutter contre le changement climatique. Et Musk, donc, à qui quelqu'un sur Twitter demandait si les SMS étaient authentiques, a confirmé que c'était bien le cas. Et le même jour, il a tweeté une photo très peu flatteuse de Bill Gates, où on voit que Bill Gates a pris un peu de ventre, et avec une photo d'un emoji qui représente un homme enceinte, et avec comme commentaire « au cas où vous voulez perdre une érection rapidement ». Et donc c'est un tweet qui a été liké par plus d'1 million de personnes. Donc, c'était une dispute très publique avec Bill Gates. Il y a eu d'autres exemples. Alors, Jeff Bezos aussi est clairement pas l'un de ses fans. Mark Zuckerberg aussi. Par exemple, Elon Musk a supprimé la page Facebook de Tesla et avait fait circuler des tweets avec des messages « Delete Facebook » en disant que le réseau social était nul. Voilà, il en a sûrement beaucoup d'autres, des anciens employés qui ont dû quitter Tesla après l'avoir critiqué publiquement, les régulateurs américains aussi avec qui il a des relations tumultueuses. Donc, je pense qu'il s'est créé beaucoup, beaucoup d'ennemis ces dernières années.
Les gars, j'ai des idées de malade. On va faire des autoroutes, mais sous la terre, d'accord? On va faire des petites capsules, on va mettre des gens à l'intérieur qui vont se déplacer dans des tubes à la vitesse du son. On va aller sur Mars. Pour faire quoi? Eh ben des selfies sur Mars. La seule limite, c'est de refaire gagner l'OM en Champions League. À part ça, tout est possible.
Est-ce que ça l'isole totalement ou bien il compte quand même des amis dans la tech qui pourraient voir en lui le représentant d'une nouvelle classe de dirigeants un peu sans filtre?
C'est vrai que la Silicon Valley a tendance à attirer les profils un peu atypiques de PDG qui se distinguent du lot, mais il n'y en a quand même pas beaucoup comme lui. En tout cas, il a reçu le soutien public de Jack Dorsey, donc le fondateur de Twitter, pendant l'opération de rachat. Et donc le fondateur et ancien PDG de Twitter a tweeté pour le soutenir lundi avec une chanson de Radiohead en disant « Everything is in its right place », donc « Tout va bien ». En disant qu'il ne confierait pas Twitter à n'importe qui, mais qu'il avait une totale confiance dans Elon Musk. Donc je pense qu'on peut compter Jack Dorsey parmi ses amis. Après, Elon Musk a dit que publiquement qu'il n'avait pas de maison et qu'il dormait uniquement chez des amis. Alors est-ce que c'est vrai ou pas, je ne sais pas, mais donc je pense qu'on peut imaginer qu'il doit avoir des amis proches qui l'hébergent, mais je dois avouer que je ne les connais pas personnellement.
Vous voulez dire, Hortense, que l'homme le plus riche du monde n'a pas de maison?
Ouais, c'est ce qu'il a dit dans plusieurs interviews, qu'il n'avait pas de maison, un peu pour montrer son détachement des choses matérielles et qu'il habitait uniquement chez des amis.
Elon Musk ferait du couch surfing chez ses potes.
Dingue!
Ah bah ouais, c'est dingue!
Merci à Hortense Goulard, correspondante des Échos en Californie, et merci à Julien Dupont-Calvo, chef du service industrie aux Échos. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts, comme Apple Podcasts, Podcast Addict, Castbox ou encore Deezer, Spotify et Amazon Music. Pour suivre l'actualité à travers nos articles, nos analyses ou encore nos enquêtes, rendez-vous chaque jour sur leséchos.fr.
Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.